Invité de la deuxième partie de la grande table, philosophe François Julien, qui vient apporter son eau au moulin du débat sur l'identité culturelle en ne prenant pas parti entre les dits néoconservateurs et les multiculturalistes. Non, François Julien estime dès les premières lignes qu'il n'y a pas lieu de faire de l'identité culturelle le grand clivage de la présidentielle. Pas la peine de s'écharper puisque, et c'est le titre de son court essai paru aux éditions de Lerne, il n'y a pas d'identité culturelle. Car la culture ne cesse de se transformer. Au mieux, devrait-on parler de ressources culturelles françaises qu'il convient éventuellement de défendre, oui mais alors, dans le sens d'exploiter plutôt que de protéger. Est-ce que tout est affaire de mots? Peut-être, à se tromper de concept, on s'enlisera dans un faux débat qui d'avance et sans issue, estime en tout cas le philosophe, sinologue et helléniste François Julien, professeur à l'université Paris Diderot et titulaire de la chaire sur l'altérité à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, d'ores et déjà auteur d'un éloge de la fadeur chez Philippe Piquet, d'une philosophie du vivre et de vivre de paysages où l'impensé de la raison ou encore de vivre en existant, une nouvelle éthique parue chez Gallimard. Bonjour François Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous refusez l'ethnocentrisme et lui préférez une approche non pas comparatiste mais décentrée des situations et vous, votre délocalisation de la pensée, vous la faites à partir de la Chine. Vous regardez de Chine comment ça se passe, ça se trame ici, vu de Chine. Choisissez, ou d'ici d'ailleurs, hein, vous pouvez choisir votre tour d'observation. Question préalable comme chaque jour dans cette émission, comment allons-nous François Julien? Vaste question.
Oui, je dois dire que si j'aborde cette question de l'identité culturelle, pour essayer de préciser ce qu'on pourrait dire avec cette notion, peut-être en quoi elle est trompeuse, c'est partie de mon expérience de philosophe sinologue, helléniste, sinologue, de quelqu'un qui a donc quitté la philosophie européenne, non pas par désintérêt à son égard, mais pour voir ailleurs. Et sonder ce qu'on appelle l'héritage des Grecs en le quittant pour le percevoir du dehors que j'ai choisi en Chine, qui est donc un ailleurs de la pensée. Donc c'est pas ma réflexion m'a conduit à réfléchir sur justement ce que sont les cultures et quel rapport on peut avoir avec elles. Et c'est vrai que c'est pas dans une moindre mesure que je parle de ressources culturelles. C'est parce que ça me paraît essentiel. C'est que nous avons à défendre des ressources culturelles, ressources de chaque culture. Et se défendre est un défendre qui est un défendre offensif. C'est pas un défendre sur la défensive ou peureux. C'est que nous avons à déployer les ressources culturelles.
Mais avant d'en venir à votre essai et à l'identité culturelle qui occupe effectivement une grande place dans les débats aujourd'hui, comment allons-nous derrière cette question, l'envie de savoir comme philosophe, comme citoyen, comment vous regardez l'état de la société aujourd'hui française? Est-ce qu'on va aussi mal qu'on le dit? Parce que pour l'instant, les tonalités quand on parle de nous, de ce nous commun, sont quand même assez pessimistes.
Oui, mais parce que je crois que c'est le rôle d'ailleurs des médias que de dire ce qui émerge et ce qui émerge, c'est ce qui ne va pas. Donc, c'est les accidents qui sont saillants, si vous voulez. Donc, est-ce que ce dont on parle est effectivement le reflet de ce qu'on vit? J'en suis pas sûr. Car il y a entre les deux, il y a un montage, qui est un montage d'opinion. Et ce montage d'opinion, pour une large part, peut aussi être travesti, ce qui est effectivement vécu et qui est difficile à atteindre. Le ici et maintenant, l'expérience est toujours abordée à travers des perspectives qui sont aussi des écrans. Donc je vois, si vous voulez, que faut pas être dupe de cette sorte de morosité ou ton attristé de l'opinion. En même temps, il me semble qu'il y a des choses effectivement qui ne vont pas. Le propos précédent le laissait entendre, à savoir, notamment sur le plan politique, qu'on tend à confondre, si vous voulez, conviction et positionnement. Et je crois que la politique en France est de plus en plus une affaire de positionnement et non plus de conviction politique. Et c'est ce dont le débat politique souffre. C'est que, finalement, on sent bien que les hommes politiques sont de plus en plus soucieux de ce qui sera la meilleure stratégie pour eux, et non pas ce qui tiendrait compte des difficultés ou des réalités sociales et politiques du jour. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est, cette perte de conviction me paraît essentielle, comme fait, aussi bien au niveau de la France que de l'Europe, c'est pas, comme fait négatif contre laquelle il faut combattre. Mais je crois que, justement, chaque époque a sa forme de résistance. La nôtre, peut-être. Et la résistance est quelque chose qui est ambiant, qui est prégnant, qui n'est pas un ennemi comme ça directement, et le terrorisme le montre aussi. Il y a plus la disposition classique, c'est de la guerre avec l'adversaire au dehors, la frontière, et on y va, etc. Je crois qu'il y a quelque chose qui est difficile aujourd'hui, qui est que on ne sait plus quel est, disons, l'opposant auquel on doit s'opposer. En tout cas, il a un visage beaucoup plus flou. Donc, il y a une difficulté à constituer les raisons de notre, ou les raisons et les ressorts de notre résistance. Mais chaque époque se définit par la résistance qu'elle a su promouvoir.
À mes côtés pour vous interroger, Bruno Cadenne, journaliste à la rédaction de France Culture. Notre invité ce midi, François Julien, philosophe pour son court essai « Il n'y a pas d'identité culturelle ». Ah bon ?
La maladie du renoncement, c'est quand les élites ne sentent plus le désir ni la force d'entendre l'histoire de la France, son identité culturelle, son identité morale et, j'ose le mot, son identité spirituelle, car la France, pour moi, c'est un corps, la France, c'est un esprit, la France, c'est une âme.
L'identité de la France, c'est quoi ? C'est l'harmonie entre sa diversité et son unité. La France est diverse, et ça, je n'en démordrai pas. Diverse, ça veut dire quoi ? Que nous n'avons pas tous les mêmes origines, que nous n'avons pas tous la même couleur de peau, que nous n'avons pas tous la même religion. Il faut le respecter, naturellement, parce que c'est une force et c'est une richesse. À deux conditions. Premièrement, non au communautarisme. Deuxième condition, c'est renforcer ce qui nous unit. Parce que si on se contente d'être divers et qu'on ne partage pas un bien commun, ça ne fait pas un pays, ça ne fait pas une nation.
Dans l'histoire de France, ce qui fait sens, c'est la rupture, pas la continuité. Si nous avons un passé commun, qui que nous soyons, quels que soient nos ancêtres, c'est la grande révolution qui nous rend égaux. C'est ce que dit la révolution. Nous sommes tous semblables, nous sommes égaux en droit. Et il y a des droits universels. Ce sont les droits de tout être humain. Voilà notre identité.
Partout où je vais dans le monde, la France, c'est une idée. Bien plus qu'une identité. L'identité, c'est ce que nous avons fait dans le passé qui nous a constitués. Mais l'idée, le projet, ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer, ça, c'est l'essentiel. Et c'est ce que le monde regarde dans la France.
L'identité culturelle française impossible à définir selon vous, François Julien. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, eux, le font la définir. Pourquoi ils se trompent ?
Vous savez, le travail du philosophe, c'est de nettoyer les concepts.
Là, il y a besoin d'un grand coup de balai, visiblement.
Je pense qu'il y a à faire des opérations minimales, mais pour savoir de quoi on parle. Sinon, le débat n'existe pas. Je ne crois pas qu'il y ait une identité culturelle proprement dite. Pourquoi ? Parce que nous confondons deux choses. L'identification du sujet, il y a un processus légitime qui est que le sujet, nous, chacun, se constitue par identification au père ou à je sais qui d'autre. Donc il y a un processus subjectif d'identification, mais il y a autre chose qui est dite ici, c'est qu'il y aurait une identité objective de la culture. Et je ne crois pas pour des raisons très simples, c'est pour deux raisons. La première, c'est que la culture change. Si elle ne change pas, elle meurt. Elle est en mutation. C'est ce qui la maintient en vie. D'autre part, la culture est une création collective. Or, l'identité est toujours singulière. Donc pour ces raisons simples, je ne crois pas qu'il y ait une identité culturelle. Mais, et bien parce que identité fait couple avec différence. Et je ne conçois pas les cultures en termes de différence ou de caractéristiques. On pourrait dire, voilà, la culture française c'est comme si, la culture, telle autre culture c'est autrement, etc. Définir les cultures. Pourquoi ? Alors c'est pour ça que je propose de remplacer le terme de différence par écart. Écart, c'est-à-dire, la différence entre différence et écart, c'est la différence en fait range les cultures selon des caractéristiques. Écart ouvre une séparation, mais qui maintient en regard, qui met en tension. Et ça qui me paraît pouvoir mettre en œuvre ce qui a été dit à l'instant, c'est comment produire du commun à partir des écarts. C'est ça qui est l'enjeu politique aujourd'hui.
Et pour vous, l'écart permet aussi de penser cette impensée de l'Occident, ce que ne fait pas la différence. Bruno Cadenne, une question pour notre invité François Julien.
Est-ce qu'il y aurait une identité culturelle européenne alors, qui nous réunirait tous ?
Pas plus. Quand nous avons voulu rédiger une constitution européenne. Nous avons voulu donc rédiger un préambule à cette constitution. Nous avons donc voulu définir l'Europe. Qu'a-t-on fait ? Les uns ont dit « elle est chrétienne », ils avaient raison à leur façon. D'autres ont dit « elle est laïque, les Lumières », ils avaient raison à leur façon. Qu'est-ce que l'Europe ? C'est justement l'écart, la mise en tension entre le christianisme et d'autre part le culte de la raison et les Lumières. Donc, au fond, ce qui fait une culture, c'est sa mise en tension. Et donc, au niveau de l'Europe, comme au niveau de la France, si vous me dites la culture française, est-ce que c'est La Fontaine, est-ce que c'est Rimbaud? C'est l'écart des deux, c'est la mise en tension. Et c'est ça qui permet, c'est l'antre ouvert par l'un et l'autre, et c'est dans cet antre que se promet du commun. Le commun vient de l'antre ouvert par l'écart. Donc je crois qu'au niveau de l'Europe, comme au niveau de la France, c'est la même question. C'est pas par identification qu'on peut définir une culture. C'est pas en cherchant quel serait le trait caractéristique prévalent et qui est toujours, soit on le prend statistiquement et ça n'a pas de sens, puisque le plus intéressant, c'est ce qui évidemment sort de l'exception, c'est le singulier. Hein. Donc je crois que d'une façon comme de l'autre, ce qui importe, c'est de concevoir la culture comme ressource. Ressource, c'est-à-dire... la ressource n'appartient à personne. Moi, j'ai passé une partie de ma vie à m'intéresser aux ressources culturelles chinoises. Je ne suis pas pour autant chinois. Mais je m'intéresse à ces ressources, je les explore, je les exploite, je m'en sers pour penser. Les ressources n'appartiennent pas. Les ressources, d'autre part, n'appartiennent pas dans les rapports de force. Puisqu'elles n'appartiennent pas, tout le monde peut exploiter des ressources. Ce n'est pas exclusif. Et en même temps, c'est ce qui rend la culture active. Une culture ne vit que par la façon dont on explore, exploite des ressources culturelles.
Donc si on invoque les racines chrétiennes de l'Europe, on fige, voire on se trompe, il faudrait parler des ressources chrétiennes de l'Europe.
Oui. Et là, je crois qu'on dit quelque chose de très précis. Il n'y a pas de quelles sont les racines culturelles de la France ou de l'Europe? Clovis, j'apprends que Clovis, qu'avant, il y avait les Gaulois. Donc, les Gaulois n'étaient pas chrétiens, que je sache. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'histoire, des conversions, bien sûr. Mais je crois que racine, en plus, a ce tort de transposer en termes de nature ce qui est culture. Et on n'y gagne rien à faire ça, on le sait bien. Donc, je ne crois pas, je trouve ça pas de sens de parler de racines chrétiennes pour la France ou pour l'Europe. Par contre, il y a des ressources chrétiennes et que de dire explore et exploite des gens qui ne sont pas européens, que je sache. Alors, si on parle de ressources chrétiennes, oui, je crois qu'on peut dire, on cerne quelque chose de précis. Eh bien, la figure du sujet, la pensée du scandale, il y a des ressources, et effectivement, la promotion de la figure du sujet à partir du christianisme, celle qui ensuite est récupérée par la philosophie, par Descartes et toute la tradition qui suit, là il y a une ressource. Et ressource signifie que c'est pas valeur, c'est ressource. Les valeurs nous mettent dans un rapport de force, mais les ressources sont à qui les exploite. Elles sont disponibles. Et donc mon discours est un discours, en fait, d'enthousiasme, pas du tout minimalement défendant des ressources. Non, les ressources, c'est justement ce qui déploie une culture et nous avons à nous demander aujourd'hui quelles sont les ressources culturelles que nous voulons déployer et les ressources ne valent que par justement l'investissement et la responsabilité qu'on a. Alors, la première ressource, c'est la langue, bien sûr. Il n'y a pas d'identité culturelle française à définir comme telle, mais il y a une langue française, là, je sais de quoi je parle, une langue française. Et c'est une ressource, une langue. Nous pensons à partir de la langue. Et donc, ce qui est d'abord le premier bien commun pour la France, c'est l'exploitation de la langue française et de ses ressources.
Mais si vous commencez à faire l'inventaire de ces ressources, il y a risque, justement, là encore, de les figer ou de figer la culture. Et vous dites figer la culture, c'est la tuer. Ça va, vous dites d'un côté que la culture est en transformation permanente, qu'on ne peut pas la figer en une identité, mais de l'autre côté, vous estimez qu'on devrait s'inquiéter quand même du tarissement des ressources culturelles, au même titre que des ressources naturelles, à l'épuisement de cette biodiversité culturelle. Mais quand Harry Potter, que vous citez, remplace Molière, pourquoi pas considérer là qu'il s'agit d'une transformation et non d'une disparition?
Ce n'est pas Harry Potter remplaçant Molière qui me gêne. Pourquoi pas? C'est Harry Potter partout dans le monde. C'est l'uniformisation qui est en question. C'est-à-dire que nous confondons aujourd'hui deux choses, nous sommes conduits par la mondialisation à confondre deux choses, qui est l'uniforme et l'universel. Et donc, que Harry Potter soit lu aujourd'hui, c'est très bien. Au contraire, c'est partie de la culture nouvelle. Et la question n'est pas là. La question, c'est si, pour des raisons en fait commerciales, le même livre se vend partout au même moment et sature le marché, il y a un formatage à l'identique, à l'uniforme, et qui, s'étendant partout, tend à se faire prendre pour l'universel. Et c'est là, pour moi, qui est le point essentiel à distinguer. L'universel est légitime. Surtout si on distingue l'universel de constat, de généralité, ça a toujours été comme ça, et l'universel sur lequel la science est fondée, qui est l'universel de la science, c'est-à-dire de la nécessité. Il ne peut pas en être autrement. C'est l'universel qui a été le grand promoteur de la culture européenne et qui a servi de support au développement de la science. Et dans la question, c'est de savoir s'il convient tel quel à l'éthique et aux politiques. Mais il y a une légitimité pour moi de l'universel, Le risque aujourd'hui, c'est de confondre l'uniformisation devenant mondiale, donc saturant le paysage, avec un, donc le créditer d'une légitimité qui est celle de l'universel, de droit, alors que l'uniforme est un concept de la production économique et que l'universel est un concept de la raison. Donc vous savez, pour Harry Potter, mon problème n'est pas Harry Potter comme tel, c'est le fait que la mise en place soit mondialement la même et donc produise une uniformisation, une standardisation de la culture, contre laquelle réagissent bien sûr les identités culturelles farouches, chacun revendiquant une identité d'autant plus identitaire qui réagit à une sorte d'uniformisation. Or la culture vient du singulier, la culture est une culture.
Il ne faut pas effacer ces différences. Et oui, pour vous paraphraser et pour nos auditeurs, selon vous, une uniformisation du monde déguisée en universel, écrivez-vous, va exclure la diversité. Et voilà aussi comment le partage d'un commun se retourne en sectarisme et en repli identitaire. Bruno Caden.
Est-ce que l'école aurait un rôle à jouer quand on parlait de la culture européenne, elle n'est absolument pas enseignée dans l'école française. On ne parle que de la langue française, de la culture française. Est-ce que justement, quand les pères fondateurs ont créé l'Europe, ils ont commencé par mettre en commun l'acier et le charbon et pas la culture. Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par ça?
Oui, je crois que bon, l'école est des manières essentielles, mais si quelqu'un, un enfant, apprend vraiment le français, déploie les ressources de la langue française telles que les écrivains les ont déployées, c'est le propre de la littérature que de déployer les ressources, mais je dirais personne n'ira faire le djihad. Si vous êtes formé, si vous exploitez les ressources de la culture, que la culture française, à partir de sa langue, et donc à travers sa littérature, eh bien, des choses deviennent impossibles. Alors, je crois que pour ce qui est de l'Europe, c'est vrai que bon, l'échelle a été française longtemps, mais je crois que c'est pas en, disons, en mêlant les cultures, ou c'est pas en apprenant forcément un peu de tout, qu'on a l'esprit plus large. Je pense que quelqu'un qui a... les cultures sont singulières, donc quelqu'un qui développe les ressources d'une culture devient intelligent et par là même capable ensuite de s'ouvrir à d'autres modalités culturelles. Donc, si vous voulez, par contre, je trouve effectivement très dommageable dans la perte. Parce que oui, les cultures sont des ressources, on peut les perdre. L'élégance française, Dieu sait qu'on l'a beaucoup perdue.
Ça, c'est une ressource, l'élégance.
Oui,
pour vous.
Bien sûr, absolument. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, quand vous voyez la télévision, c'est qu'il y a une vulgarité qui effectivement me paraît une perte de ressources. Oui, enfin, c'est comme ça que je réagis. Et la langue française, si on la parle mal, si on ne la déploie pas dans ses ressources diverses, comme par exemple la liberté des temps, des modes, oui, je pense que c'est une perte. C'est une perte parce que les ressources se promeuvent, elles se déploient. Donc ne pas déployer, c'est être en rétractation, c'est être en rétrécissement.
Mais alors justement, pratiquement pour comprendre, reprenons l'élégance, c'est une ressource française.
Non, elle n'est pas française au sens identitaire. Elle est, entendons bien, il y a quelque chose qui est promu en France, qui s'est promu, je tiens, à titre de ressource, c'est pas une identité culturelle de la France, c'est une ressource que, à travers le langage, à travers un certain rapport de société, à travers cette, quelque chose qui, notion délicate, mais celle d'élégance, oui. Qu'on peut penser à par opposition à d'autres notions comme vulgarité.
Alors comment on la défend, dans le sens de l'exploiter?
Eh bien, on cultive l'élégance. L'élégance de la langue. Écrire. L'élégance du style. C'est quelque chose de réel, ça. Et qui se déploie. Ça, je ne défends pas sur un mode défensif, mais c'est explorer, exploiter, c'est déployer qui défend. C'est pas définir, c'est simplement parce qu'il y a une élégance de style, effectivement. Et elle est une ressource qu'on peut perdre. Mais si on la cultive, eh bien, il y a quelque chose qui se déploie du sujet, et surtout, ce pourquoi je tiens à cette distinction, c'est que la question que nous avons tous, c'est quoi? C'est comment produire du commun à partir de là. Soit on uniformise, et on a un commun de similitude. Pour moi, le commun n'est pas le semblable. Je reprends la fameuse phrase de Braque, le commun n'est pas le semblable. Donc, si ce n'est pas un commun de similitude, c'est un commun de quoi? Eh bien, je crois que le commun se développe à partir des écarts, dans l'antre ouvert par les écarts. Et sinon, le commun est pauvre. Prenez un couple a un commun effectif que s'il y a de l'écart entre les deux personnes qui constituent le couple. Prenez la famille, il y a un commun de la famille s'il y a de l'écart en jeu. Et c'est au travers des écarts qu'on peut promouvoir du commun. Sinon le commun, c'est du clonage, c'est du semblable, c'est-à-dire c'est la répétition. La phrase de Braque que j'aime bien quand il dit « Trouillebert ressemble à Corot, mais ils n'ont rien de commun ». Vous prenez un Trouillebert au Corot, au Louvre, vous voyez, ça ressemble, mais ils n'ont rien de commun. Donc je crois qu'il faut penser le commun contre le semblable. Le commun, c'est justement ce qui se promeut au travers des écarts, qui mettent en tension et qui permettent donc de promouvoir ce commun. L'expérience du couple, l'expérience dans un pays. Effectivement, il y a... Alors, j'entendais dans les propos politiques que vous citiez, la défense de la diversité. La diversité s'entend dans cette façon-là. Mais ce n'est pas au sein du divers cherchons ce que nous avons de commun. C'est promouvoir le commun au travers du divers. Parce que c'est ça qui est un commun actif, un commun intensif. Pas un commun de clonage ou de répétition, mais un commun qui fait œuvre de commun.
Alors François Julien, cette question du commun, elle interroge aussi notre confrère de réplique, Alain Finkielkraut, qui a lui l'identité malheureuse, vous le savez, et qui s'interroge entre autres sur ce qui est, ce qui fait être français.
Je suis évidemment français, mais je ne suis pas tout à fait français, bien que né en France, de la même manière que un français qu'on n'ose plus dire de souche. Le droit, si vous voulez, instaure une égalité totale, mais la réalité sensible n'est pas le droit. Quelqu'un qui vous dit, un nouvel arrivant, « je suis aussi français que vous », vide la France de toute réalité. Et il ne revient pas à la France d'offrir un Coran à ceux qui se réclament de l'islam et qui veulent vivre une vie entièrement islamique. Il lui revient d'offrir ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est effectivement la civilisation française. Et cette civilisation française, elle semble être oubliée par ceux qui devraient en être les dépositaires.
François Julien, la civilisation française en danger, quelque part ?
Je crois qu'on revient à cette question de départ, qui est ne pas confondre l'identité du sujet, peut être complexe, multiple, et puis ce qu'on appelle l'identité culturelle, comme une identité objective. Je crois qu'il faut, de ce que je viens d'entendre à l'instant, c'est ça qui est en jeu. Alors, moi, je ne suis pas sur le ton de savoir si en danger, en perte, etc. Non, je crois qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait France ? Comme on dit, qu'est-ce qui fait Europe ? Qu'est-ce qui fait, non pas ce qui est la France identitaire, avec des caractéristiques qui seraient les caractéristiques, la définition de la culture française ? Je ne vois pas quelles sont ces caractéristiques. Encore une fois, si je me tourne vers le passé culturel de la France, je me demande, est-ce que c'est Rimbaud, est-ce que c'est La Fontaine ? Pour moi, c'est les deux. Autant l'un que l'autre, et l'écart des deux, c'est ça qui fait là. Parce que c'est cet écart ouvert entre les deux qui est potentiel. Donc je crois qu'il y a des ressources qui sont effectivement en perte. Moi, je défends le latin et le grec. Au titre de quoi ? Non pas pour défendre le lycée classique, bourgeois, élitiste comme il était. La chose est morte, et c'est très bien comme cela. Mais il se trouve que, effectivement, cette ressource-là des langues anciennes, en très peu de temps, permet à quelqu'un, adolescent, enfant, adolescent, d'acquérir une intelligence culturelle, parce que ça fait très longtemps qu'on enseigne ces langues-là et qu'on sait les enseigner, qui lui permet... Et moi, je sais qu'à mes étudiants qui viennent de Chine et qui veulent faire une thèse avec moi, je leur demande d'apprendre le latin ou le grec. Parce qu'une façon commode, rapide, en fait, vous êtes grand commençant, grand débutant dans ces langues, et vous allez très vite pour... Ben, vous entrez dans la morphologie, vous entrez dans un système de modalités, vous entrez dans quelque chose qui très vite vous équipe. Et ça qui m'apporte, c'est d'être équipé, muni, intellectuellement, culturellement. Donc je crois qu'il y a, c'est pas sur le mode, si vous voulez, de la défense défensive, c'est sur le mode de, il y a des ressources comme le latin et le grec qui ont été, qui sont tombées en friche pour des raisons de lâcheté, je crois, idéologique, et qu'il faut activer.
Mais je vous ai un peu perdu là, François Julien, vous aviez commencé par vous demander ce qui fait France. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, du coup. Qu'est-ce qui fait France ?
Ben, je pense que la France s'est constituée à travers des écarts. Par exemple, le grand écart entre la foi et la raison. Au sein même du sujet, comme Pascal. Qui est l'un et l'autre. Donc des écarts, il faut pouvoir ouvrir les écarts. C'est pas comme ça. Cet écart, faire un écart, penser, c'est s'écarter. Penser en soi, c'est quoi ? C'est ouvrir un écart. Comment Aristote a ouvert un écart par rapport à Platon ? C'est pas en quoi Aristote est différent de Platon qui m'intéresse. Parce que là, on range Aristote et on range Platon, l'aristotélisme face au platonisme. On les range. La différence range. L'écart dérange. L'écart, faire un écart, comme on dit dans la langue commune. Eh bien, la culture française a fait des écarts. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est de voir justement comment l'humanité a ouvert des écarts divers. Quand je vais au Quai Branly, eh bien, c'est tous ces écarts ouverts, exploratoires. L'écart est une notion exploratoire, heuristique. Jusqu'où va l'écart ? Rimbaud a ouvert un écart, mais La Fontaine en avait ouvert un autre. Comme La Fontaine a ouvert un écart. Je les prends tous, n'est-ce pas, tous les grands écrivains. Parce que écrire, c'est ouvrir un écart dans la langue. Penser, c'est ouvrir un écart dans la pensée. Donc, le commun qui est le nôtre aujourd'hui, c'est le commun ouvert par tous ces écarts, inventifs, exploratoires, qui créent de l'antre. Et c'est cet antre ouvert par écart qu'il faut déployer.
Et donc mouvant et pas figé. Dire qu'il y a des différences culturelles, selon vous, reviendrait à dire qu'il y a en amont une identité première. Et ça, pour vous, c'est un mythe, une mythologie. Ça ne se passe pas comme ça. Donc aussi, le choc des civilisations, pour reprendre ce terme de civilisation qu'Alain Finkielkraut vient d'employer, est un leurre pour vous ? C'est une mise en tension des singularités qui n'a pas lieu d'être ?
Non, la mise en tension m'intéresse. C'est la bêtise qui me gêne, n'est-ce pas ? Quand on classe les cultures, je pense au livre de Huntington, n'est-ce pas, sur le clash des civilisations, pour reprendre ce terme de civilisation.
Qu'on les classe pour les opposer, hein.
Qu'on les classe en disant, l'islamique est comme ça, la chinoise est comme ça, l'européenne est autrement. On dit d'abord des choses fausses parce qu'on cherche des traits identitaires. Encore une fois, le plus intéressant échappe à ça. D'autre part, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme ces cultures, comme dans des bulles, n'est-ce pas, à plus d'identité. Or, au fond, si je prends la culture européenne, la culture française, n'est-ce pas, ce que je vois, c'est qu'elle est essentiellement diverse. La culture est à la fois homogénéisante et hétérogénéisante. Elle est à la fois plurielle et singulière. Dès que vous avez une culture dominante, vous avez une culture dissidente. Le culturel, il est en tension. Donc, qu'il y ait de la tension entre cultures, comme au sein des cultures, une culture est en tension avec elle-même. Genre, encore une fois, penser, c'est ouvrir un écart, donc mettre en tension sa pensée avec les pensées précédentes ou la pensée ambiante. Donc la tension, elle est tout à fait l'élément même de la vie des cultures. Je crois, si vous voulez, que c'est de définir les cultures par des traits identitaires qui est faux. Que ce soit la culture française, que ce soit la culture européenne ou d'autres cultures, les cultures, c'est des ressources à déployer. Et les ressources, eh bien, elles sont ce qu'on en fait. Donc elles ne sont pas limitables dans une définition, elles sont exploitables.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
La Grande Table avec François Julien ce midi. Il n'y a pas d'identité culturelle, c'est le titre de votre essai qui vient de paraître aux éditions de Lerne. Avant, le débat public se focalisait plutôt sur les idées de progrès, d'égalité, nous rappelle Patrick Boucheron, votre confrère. Aujourd'hui, il se focalise sur cette question de l'identité. Pourquoi ? Lui estime, il estime encore récemment dans les colonnes de La Croix, que la résurgence de ce thème, de cet art français de la défaite qui consiste à prétendre forger des identités, se fait dans la peur du retour des malheurs. Comment on en est arrivé là pour vous, François Julien ? Pourquoi cette question a-t-elle envahi le débat public ?
Je crois que c'est un symptôme d'un repli. Et peut-être aussi un alibi. Alibi parce qu'il y a des difficultés économiques, politiques qui sont là. Et si on ne peut pas les aborder comme telles, ou qu'on pense que c'est trop clivant, ou trop dangereux par les positions qu'on doit prendre, il y a peut-être un repli sur la question identitaire à cet égard. D'autre part, il y a certainement quelque chose qui est de l'ordre d'une France qui se sent moins forte qu'avant. Donc, ça doit résonner aussi avec cela. Ce qui me paraît important, c'est de savoir de quoi on parle. Encore une fois, le rôle du philosophe, c'est d'essayer de... C'est pas de donner mon opinion, c'est pas intéressant, c'est la mienne, c'est tout. Mais c'est d'élaborer les notions communes de façon à voir ce qui peut en être retiré conceptuellement pour en faire des outils. Les concepts, c'est des outils. Et ce qu'il faut, c'est organiser un débat qui soit un débat effectif. Et non pas, si vous voulez, fait de slogans ou de positions qui sont des positions uniquement pour attirer l'opinion de son côté. Donc je crois, si vous voulez, que c'est avec quoi on parle et avec quels outils on traite cette question. Je vous dis, je crois qu'il y a une identité du sujet et je ne refuse pas d'avoir une carte d'identité. Je ne pense pas qu'on puisse parler de la même façon, l'identité culturelle, c'est-à-dire de façon objective, parce qu'elle est collective et parce qu'elle est en mutation continue. Et je propose d'autres termes qui sont des termes, des concepts plus opérants. Donc, non pas différence, mais écart. La différence entre les deux étant que différence, c'est un terme de connaissance. Et donc, qui range. Avec les différences, vous faites des typologies, vous aboutissez à des définitions, comme dit Aristote, de différence en différence jusqu'à l'essence de la chose. Bon. La différence est légitime comme telle. Je ne crois pas qu'elle soit opportune, plutôt qu'elle soit adéquate pour la question en suspens. Là, je propose parler d'écart, parce que l'écart est un terme qui, non pas range, mais dérange. Et écart en plus, dans la différence, vous laissez tomber l'autre. Dans l'écart, non, vous maintenez l'autre en regard. Et penser, je dis, c'est ouvrir un écart. Écrire, c'est aussi ouvrir un écart. C'est donc chercher à déployer, sortant de la... du commun, au sens de l'ornière commune ou du pli commun, voir comment déployer des ressources Donc, je crois que l'importance de l'écart, c'est que l'écart, par la séparation qu'il ouvre, fait apparaître de l'antre. Et c'est cet antre-là qui me paraît le lieu effectif du commun. Non pas donc un commun par assimilation, on range sous une sorte de standard ou stéréotype, mais d'un commun qui est celui qui se déploie dans l'antre ouvert par écart.
Mais François-Julien, donc quand, si je vous entends bien, Alain Juppé parle d'identité heureuse, quand Nicolas Sarkozy parle des ancêtres gaulois de la France, quand Manuel Valls parle d'une bataille culturelle et de l'identité nationale qui doit primer aujourd'hui ce débat sur les questions économiques et sociales, là, ils font quelque part diversion sur d'autres questions qui sont peut-être de plus haute importance. Mais en même temps, on a un autre socialiste, Jean-Marie Le Guen, qui nous dit dans Le Monde encore récemment que le thème de l'identité nous est imposé par la situation géopolitique et les difficultés objectives comme le terrorisme. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a aujourd'hui quand même une menace qui fait qu'on doit s'interroger sur ce qui fait ce commun?
Oui.
Alors, en dehors de la manière dont on le définit.
Qu'il y ait menace, oui. Alors, je ne veux pas entrer dans les positions des uns ou des autres.
C'est vous définissez deux menaces. Appauvrissement des cultures par la mondialisation, on l'a évoqué avec Harry Potter, et tentation communautariste.
Mmh. Alors, les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble, mais je crois qu'il y a effectivement menace, toute époque a ses menaces. Mais disons, qu'est-ce qui est menacé? Est-ce que c'est l'identité culturelle de la France, ou est-ce que c'est ce que j'appelle les ressources culturelles de la France? C'est tout, la question elle est là. Qu'est-ce qui est menacé? Je pense que si on pense que c'est en termes d'identité, on est amené à vouloir définir cette identité, ce qui devient sectaire, parce que c'est limitatif, c'est exclusif, etc. Et puis parce qu'on défend quelque chose qui va devenir mort. Alors que si on parle de ressources, les ressources sont exploitées, c'est actif. Et je crois que la vraie question, c'est quelles sont les ressources culturelles que nous voulons défendre en France? Alors moi, je mets la langue française, je mets une connaissance de la littérature française, parce que c'est par la littérature que la langue se déploie dans ses ressources, etc., etc. Donc, si vous voulez, que si on parle d'identité culturelle, on est sur un mode défensif qui est un mode protecteur et qui ferme la culture dans ses ressources. Et puis parce que la ressource me paraît avoir cet autre élément essentiel, c'est qu'elles n'appartiennent pas les ressources. Elles n'appartiennent pas et elles ne sont pas des valeurs. Les valeurs s'excluent, les valeurs sont des rapports de force. Mais les ressources, quiconque exploite les ressources dans la langue française, c'est bien.
Une dernière question de Bruno Cadenne pour vous, François-Julien.
Il n'y a pas actuellement uniquement un retour identitaire vers une identité qui n'aurait pas existé, mais il y a aussi un retour aux empires. Monsieur Erdogan promeut l'empire ottoman, Monsieur Poutine l'empire russe, etc. Est-ce que ça signifie, quand on veut promouvoir un empire, c'est qu'on veut imposer ce qu'on estime être sa culture aux autres?
Alors,
ça,
je pense peut-être encore plus inquiétant. Si quelque chose qui est fait France, c'est bien ça, de ne pas entrer dans cette logique-là. Celle des empires qui seraient des définitions culturelles. Je pense que la France, sa ressource, c'est quoi? C'est qu'elle a particulièrement développer des écarts culturels. C'est le propre. C'est quelque chose là qui est une ressource française essentielle, qui est que, oui, il y a eu la religion, il y a eu la raison, il y a eu des écrivains très divers qui ont exploité la langue de façon comme ça, diverse et multiple. Donc je crois qu'il y a effectivement d'attention politique aujourd'hui, d'empire, et qui, pour se justifier, se couche sous cette notion d'identité. Bien sûr, c'est là. Mais je pense que la vocation de la France et de l'Europe, c'est d'aller contre ça. Parce que moi, je suis pour une Europe des langues, pas une Europe du globish. Mais l'Europe, pour moi, est riche du fait qu'il y a des langues de culture en Europe. Et je ne défends pas le français. Je défends aussi bien l'allemand que l'italien ou l'espagnol. C'est-à-dire qu'il y a... Et l'homme cultivé européen était quelqu'un qui connaissait des langues. Les langues mortes, les langues vivantes. Et donc, la traduction, c'est le lieu même du commun de la culture. De l'antre qui fait du commun. Donc je crois que effectivement ce retour aux empires est un très mauvais signe des temps et contre lequel l'intelligence c'est quoi? L'intelligence n'est pas fini. L'intelligence c'est la capacité de traverser des intelligibilités diverses et plus notre intelligence traverse d'intelligibilités diverses, plus elle est déployée.
Un grand merci à vous, François-Julien. On l'aura compris sur la question du comment, parce que c'est vrai qu'on a plus parlé du pourquoi et du où va-t-on. Vous prenez effectivement le dialogue, pas la synthèse, ni la recherche d'un dénominateur commun, ni un faux égalitarisme, mais bien un dialogue sous forme de traduction aussi. Vous l'évoquez, l'importance de la langue, plutôt que le globish, une langue commune qui ne vaut pas aujourd'hui d'exister, mais d'exploiter nos propres ressources. Un grand merci à vous, François-Julien. Il n'y a pas d'identité culturelle vient de paraître aux éditions de Lerne. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, c'est-à-dire à Claire Maillot, à Clémence Marie, à Julien Rosa, à Antoine Tricot qui a préparé cette émission, à Inès Magriff également et à Farah Keram sur le fil des réseaux sociaux, à la réalisation ce midi encore.